Voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi 4 juin 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Abd Khamenei, a rendu hommage, appuyé au défunt fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini. Le leader du mouvement Ouhed d'Ansar Allah yéménite a appelé les nations musulmanes du monde entier à unir leurs forces contre l'entité sioniste. La présence militaire américaine en Syrie est illégale selon Moscou. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a rendu un hommage appuyé au défunt fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, en évoquant sa pensée la plus originale, la plus novatrice, à savoir la République islamique ou la démocratie religieuse, aspirée des préceptes de l'islam même, car cette religion ne vit que de la volonté du peuple. L'islam est une religion anti-dictature, anti-impérialisme, anti-maximalisme, anti-ingérence des pays comme l'Amérique et dans les autres pays. L'islam est une religion contre la corruption, contre le fanatisme. Et curieusement, aucun ordre politique du monde n'a été donné autant que la République islamique pour éphémère et provisoire et voué à la disparition. Alors que cela fait des 42 ans qu'elle est là, ferme et impérissable. Tout récemment, un haut responsable américain avait même prédit que la République islamique d'Iran ne verra son 40e anniversaire. En effet, ces prédictions renvoient à ce qui a advenu de la plupart des révolutions dans l'histoire, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Avant de préciser, la révolution islamique française a mis 15 ans avant de dégénérer en dictature. En Iran, la révolution constitutionnelle a viré elle aussi à la dictature au terme de 15 ans. Le mouvement de la nationalisation en Iran a été décontré en 1953 après le coup d'État anglo-américain de Shah et de l'émergence de l'une des plus complexes dictatures du XXe siècle, a souligné encore le guide suprême de la révolution islamique. Et l'honorable Ayatollah Khamenei de faire remarquer, or la République islamique d'Iran a surmonté de nombre impressionnants impressionnant d'obstacles. En 40 ans, la République islamique d'Iran n'a cessé de progresser dans tous les domaines. Et de quelle en est la raison? Eh bien, la contiguïté, la concomitance de ces deux noms, république et islamique, à savoir le pouvoir du peuple et de l'islam. Le génie de l'imam Khomeini aura été de créer ce concept, de marier ces deux nations, de lui donner corps, alors même que le monde était traversé par un foisonnement de doctrines politiques. Cette théorie de l'imam Khomeini l'a concrétisé dans les faits. La raison de son succès provenait d'abord de son immense savoir et de sa science profonde. Connaissance de l'islam, puis de son amour, de sa foi en peuple. Or, ce concept de république et de son caractère islamique se heurtait aux diverses oppositions. Les laïcs qui refusaient à la religion de tout rôle politique et gestionnel, des croyants qui prétextaient la sacralité de la religion. Ces opposants à la démocratie religieuse comptaient aussi dans leur rang des libéraux, adeptes de technocratie, a souligné l'honorable Ayatollah Khomeini. Plus loin dans ses propos, le guide suprême de la révolution islamique a souligné que l'islam est par essence une religion politique. L'islam politique que l'imam Khomeini a érigé en ordre étatique provient du Coran même, qui évoque la défense d'un État, l'application de la justice, de l'équité, qui définit les lois, bref, qui fondent un vrai contrat social. Le Coran appelle aussi à la responsabilité de chacun dans la gestion de l'État et de celle-là l'essence même de la démocratie. Le Coran souligne l'entraide, la coopération entre les diverses couches de la société pour que la justice, l'équité s'établissent et c'est là encore la quintessence de la démocratie. Mais cette démocratie religieuse renvoie aussi au droit à l'autodétermination. Le peuple devra avoir le droit à décider de son propre sort. En effet, un État ne pourra persister sans le soutien de la nation et la République islamique d'Iran ne fait pas exception à la règle, a précisé l'honorable Ayatollah Khomeini avant de poursuivre. Ainsi, l'imam a su engager la nation iranienne sur la scène politique et a fait d'elle un acteur de premier plan, un acteur qui croit en lui-même. L'imam a concrétisé cet énorme potentiel populaire et renversé une monarchie plurimillénaire pour y remplacer un ordre démocratique. La domination de l'islam et de la volonté du peuple vont de pair. Et c'est ce couple heureux qui fait des miracles, qui résout les obstacles les plus insurmontables et qui a été exploité avec art par l'imam Khomeini. Plus de 40 ans après la victoire de la révolution islamique, la nation iranienne peut se féliciter d'avoir surmonté des épreuves les plus difficiles, 8 ans de guerre que le monde lui a déclaré à travers un Saddam qu'il armait et équipait follement. Mais les Iraniens ont tenu tête et plié les chines à ses ennemis et depuis gagnent de jour en jour en puissance, en indépendance et en autorité. Et l'honorable Ayatollah Khomeini de conclure, aujourd'hui encore, cette lutte se poursuit. À l'approche des élections présidentielles iraniennes, les ennemis extérieurs font tout pour diviser notre nation, pour l'éloigner de l'État en vain. Chaque tentative contre cet heureux mariage démocratie-religion se heurte à l'imbattable rempart qu'est la résistance du peuple iranien. Que les candidats à la présidentielle prennent garde, qu'il ne fasse des promesses intenables, car une fois qu'ils ne détiennent pas leurs promesses, c'est à l'essence même de cette démocratie religieuse, cet ordre sacré qu'il porterait à atteinte. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et le principal négociateur de la République islamique d'Iran à Vienne, Abbas Araghchi, a souligné le moment est venu pour que les États-Unis et les Européens prennent leurs décisions difficiles et nous espérons qu'ils pourront le faire. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a souligné bien que de bons progrès aient été réalisés dans le processus de négociation, certaines questions clés restent encore à résoudre. Le cinquième round des pourparlers de Vienne s'est terminé après 10 jours de consultation par une réunion de la commission mixte du plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Le leader du mouvement yéménite d'Ansar Allah, Sayyid Abdul Malik al-Houssi, a appelé les nations musulmanes du monde entier à unir leurs forces contre l'antisioniste pour la retirer des territoires palestiniens de la Cisjordanie occupée et d'Al-Quds orientale. S'exprimant dans une allocution télévisée diffusée depuis la capitale yéménite de Sanaa, Sayyid al-Houssi a exhorté les musulmans à se mobiliser contre leurs ennemis et a appelé au boycott total de l'entité sioniste. En parallèle, il a fustigé certains régimes arabes pour avoir conclu des accords de normalisation parrainés par les États-Unis avec Israël, déclarant « ceux qui collaborent avec les États-Unis et Israël commettent des crimes contre les peuples de la région ». Il a poursuivi en disant que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis poussent ouvertement les nations arabes et musulmanes à se rendre et à faire preuve de loyauté envers les États-Unis et Israël et à exprimer leur hostilité envers le front de la résistance. Le facteur qui a empêché l'ennemi israélien d'envahir et d'usurper d'autres terres musulmanes était initialement le front de résistance libanais poursuivi par les factions de la résistance palestinienne, a noté le leader du mouvement yéménite d'Ansar Allah. La Russie a réaffirmé que la présence militaire des États-Unis sur les territoires syriens est illégale dans une déclaration à la chaîne de télévision Russia Today. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié d'illégale la présence militaire américaine en Syrie, faisant savoir que les Américains s'attachent toujours à des choses irréelles et changent radicalement leur ligne après le changement de leur administration. Elle a en outre estimé que ce qui s'était passé concernant l'accord sur le nucléaire iranien est l'exemple le plus marquant de la ligne irresponsable de Washington. La Tunisie a conclu deux accords de dons d'une valeur globale de 1,867 millions de dinars avec la Banque africaine de développement. Les accords de deux dons ont été signés à Tunis entre le ministre tunisien de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, Ali Kouli, et le directeur général du bureau régional de la BAD pour l'Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, d'une valeur d'un montant de 488 000 de dinars. Le premier accord de dons s'orientera vers le financement de l'élaboration d'une étude sur un projet d'aménagement des zones montagneuses du nord-ouest de la Tunisie. Quant de second, d'un montant de 1,387 millions de dinars, servira la mise en application de certains projets de partenariat entre les deux secteurs publics et privés en Tunisie. Ces deux hommes ont saisi l'occasion pour exposer les résultats d'une nouvelle stratégie lancée par la BAD portant sur le développement du secteur pharmaceutique en Afrique via l'appui des capacités techniques, logistiques et humaines des entreprises opérant dans ce domaine, en plus de l'établissement de partenariats régionaux afin d'impulser la coopération en la matière. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. La Russie a renforcé considérablement sa présence militaire en territoire syrien, plus précisément dans cette importante base aérienne de Hemaimim. Pourquoi la Russie a décidé de renforcer sa présence militaire dans cette partie du territoire syrien, d'autant plus que la Russie a décidé, si vous voulez, d'y déployer ses bombardiers stratégiques à longue de portée et nucléaire. Et cette présence militaire, ce renforcement plutôt de la présence militaire de la Russie en territoire syrien, est devenue une source d'inquiétude et de préoccupation pour l'OTAN. Pourquoi une telle préoccupation est exprimée par l'OTAN et pourquoi ce choix, cette décision de la Russie de vouloir en fait renforcer de plus en plus sa présence militaire dans la base de Hemaimim. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux des invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste français des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Norostein, très heureux de me retrouver avec vous, avec vos auditeurs et ainsi qu'avec votre invité.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou un autre analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci encore pour votre invitation.
Monsieur Beurre, Monsieur Dortiguier, on va regarder ensemble un reportage préparé par en fait nos collègues amis après CV français. On reviendra tout de suite après pour poursuivre notre débat.
Les bombardiers stratégiques russes en Syrie sont devenus une source d'inquiétude pour l'OTAN, évoque un article publié par l'Institut de Varsovie. La Russie s'est déclarée pour la première fois prête à exploiter des bombardiers stratégiques à longue portée nucléaire à partir de sa base aérienne en Syrie, indique l'article publié le 26 mai sur le site web de l'Institut de Varsovie. Et de continuer, ayant été modernisé, l'aérodrome de Hemaimim permettra désormais à la Russie de faire décoller, atterrir et de contrôler les avions à longue portée, ainsi que les bombardiers Tupolev Tu-22M3 à partir de cette base. À noter que trois bombardiers à longue portée du type Tupolev Tu-22M3 sont récemment arrivés à Hemaimim. Ils ont organisé des exercices d'entraînement dans de nouvelles zones géographiques au-dessus de la mer Méditerranée avant de regagner leur aérodrome permanent en Russie. Selon l'Institut de Varsovie, à la base militaire de Hemaimim, des travaux ont été achevés pour reconstruire la deuxième piste et installer de nouveaux équipements d'éclairage et radio. Les pistes de la base avaient été allongées d'environ 300 mètres et mesurent maintenant 3200 mètres de long, afin que la base puisse gérer de gros aéronefs. La Russie peut désormais gérer des avions de tout type depuis la base, selon le ministère de la Défense. La base de Hemaimim est essentielle pour la Russie, non seulement pour la guerre syrienne, mais en plus parce que c'est depuis cet aérodrome que les bombardiers stratégiques russes peuvent effectuer des vols à longue durée dans de nombreuses directions. L'article ajoute que les avions russes à capacité nucléaire ont ainsi une plus grande autonomie, notamment au Moyen-Orient et en Méditerranée. Fait également important, la base ayant été modernisée, les forces aériennes russes peuvent désormais laisser un peu de repos aux avions légers, souvent utilisés dans le passé pour des opérations de combat en Syrie. La Russie peut désormais utiliser des bombardiers lourds conçus pour de telles missions. L'article conclut. En renforçant les capacités de la base Hemaimim pour les bombardiers stratégiques, la Russie représente désormais une menace pour l'aile sud de l'OTAN. Il faut s'attendre à ce que la Russie intensifie ses vols de patrouille souvent provocateurs au-dessus de la mer Méditerranée et de l'Afrique du Nord, comme elle l'a fait jusqu'à présent dans la mer Noire, la mer Baltique, l'Arctique et près de l'Alaska. L'aviation de l'OTAN est actuellement très active dans la région du détroit de Gibraltar en particulier. Il y a des avions anti-sous-marins, des avions de reconnaissance électronique et un avion militaire britannique de radar d'alerte précoce. Ce qui indique que l'Alliance est préoccupée par l'apparition soudaine de navires de guerre russes, de sous-marins et d'avions de combat dans la région.
Eh bien, pour entamer notre débat, on va partir, le monde de la technologie nous le permet, de tout de suite à Moscou pour rejoindre Fabrice Beurre. Monsieur Beurre, vous venez d'écouter notre reportage, de regarder, d'écouter notre reportage. Je viens de lancer le sujet. Pourquoi, d'après vous, une telle décision de la part de la Russie de vouloir renforcer nettement et considérablement sa présence militaire dans la base de Hmeimim?
Il faut le prendre dans le cadre général de l'intervention de la Russie en Syrie et puis dans le combat géopolitique global entre la Russie ou le bloc même eurasiatique dans son ensemble face à ce que moi j'appelle le NATO-Land. Sur la Syrie en elle-même, c'était quelque chose qui était déjà prévu, puisque, comme cela a été indiqué, les avions lourds maintenant peuvent atterrir après l'adaptation de la deuxième piste pour recevoir ce type d'appareils qui sont quand même assez particuliers et assez imposants. Donc ce n'est pas une décision qui date d'hier, c'est bien une décision stratégique à long terme qui a été prise. Et à mon humble avis, dès le début la signature du bail avec l'État syrien sur la disponibilité pour les forces aériennes russes de pouvoir utiliser cette base, non seulement dans le combat antiterroriste en Syrie, mais également pour des missions extérieures. Et dans le cas précis, on le voit bien que le dernier bombardier qui est arrivé, le premier, allons-nous dire, c'est une version modernisée, c'est la dernière version modernisée de ce bombardier lourd et qui a fait effectivement quelques premières manœuvres dans la Méditerranée orientale, c'est-à-dire tout le flanc sud de l'OTAN. Il a été indiqué de toute façon qu'après les manœuvres, ces appareils allaient rentrer en Russie, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être tout le temps basés à la base, mais qu'il y a effectivement une possibilité, et à mon avis un roulement qui fera qu'ils seront assez régulièrement présents sur cette base afin de mener des missions de reconnaissance et de veille sur le flanc sud de l'OTAN. Et c'est une réponse dans le cadre que j'ai indiqué, global, géopolitique de confrontation entre le bloc eurasiatique et cet Occident dont le principal pilier militaire effectivement est l'OTAN, c'est-à-dire cet outil de contrôle politico-militaire des États-Unis sur sa colonie européenne, ce qu'il faut le voir comme ça. C'est une réponse à la politique agressive et constante de l'OTAN, son extension vers l'Est de la péninsule européenne du continent eurasiatique et qui a comme but final évidemment de rapprocher les forces militaires auprès de la Russie afin de annihiler son potentiel réponse militaire à une attaque, puisque plus on est proche, on a une réponse minimum, voire même impossible à une attaque, puisque dans le plan global géopolitique américain, pour faire vite, pour contrôler le monde, il faut contrôler l'Eurasie, le cœur de l'Eurasie, c'est la Russie, et l'objectif constant est de diviser la Russie, d'où les révolutions oranges, d'où les ingérences en Russie, mais également dans tous les pays aux alentours, ce qui explique l'Ukraine, ce qui explique le Bélarus, ce qui explique même en partie d'ailleurs en Arménie. Il y a tout un élément, tout un ensemble qu'il faut prendre en compte, et ces avions font partie d'une des multiples réponses de la Russie, une réponse militaire, une réponse stratégique, afin d'utiliser toutes les possibilités pour affaiblir les réponses, les stratégies de l'OTAN, puisque bien évidemment le flanc sud de l'OTAN, qui jusqu'à présent était totalement, entre guillemets, libre ou sécurisé, ne l'est plus avec aujourd'hui cette base aérienne, et ne l'est plus avec ces avions qui pourront utiliser cette base comme départ pour leur mission d'observation. Donc c'est un plus qu'un défi vis-à-vis de l'OTAN, c'est un pic supplémentaire que la Russie met en place dans la région, non seulement pour sa propre sécurité, mais la propre sécurité de la Russie va dans la sécurité de l'Eurasie, puisque pour conclure dans ce que je l'indiquais précédemment, il faut contrôler effectivement pour eux, il faut contrôler et diviser, détruire l'État russe, et pour cela ils y arrivent petit à petit en clignotant toute la zone qu'il y a tout autour, et donc c'est toute la zone eurasiatique, ce pourquoi aujourd'hui cette défense, cette réaction, ce retour de la Russie sur la scène internationale n'est pas seulement en défense de la Russie, mais la Russie en elle-même, de par sa position, défend tout le bloc eurasiatique sur le flanc ouest, là où se trouvent aujourd'hui les forces les plus agressives, à savoir l'OTAN.
Monsieur Dorsiguet, Monsieur Beurre vient de l'indiquer tout à l'heure. Il y a désormais cette possibilité que ces avions, ces bombardiers stratégiques nucléaires, à longue portée d'ailleurs, se nichent à tout moment dans cette importante base de Hemaimim en territoire syrien, où d'ailleurs, en fait, la Russie a déjà employé une imposante armada. Et comme vient de le dire tout à l'heure encore, M. Beur, ce renforcement de la présence militaire de la Russie en territoire syrien intervient à un moment où il y a ceux du côté occidental qui ont visé le cœur de l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Dorsiguet?
Selon cette stratégie qu'a très bien expliqué M. Bord, sur un plan proprement chronologique, c'est-à-dire en considérant ce mois de mai, nous remarquerons, et ceci je le dis d'après une remarque d'un de vos lecteurs, je crois, de Presse TV, que cette arrivée des bombardiers russes sur la base syrienne se fait quelques jours après l'installation à Sévite, au nord de Sévite, dans la base qu'on appelle de Moron, de plusieurs bombardiers stratégiques américains, de sortes de stratobombeurs, comme on dit. Évidemment, on ne peut pas ne pas voir dans cette attitude, cette réponse russe, je m'excuse par la soviétique, cette réponse russe, disons une sorte de conséquence même de cette fortification, disons, de la présence américaine en Méditerranée. De toute façon, les événements que nous connaissons, les événements en Algérie, je veux dire les différents, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie, rentrent aussi dans cette concurrence, dans cet affrontement, disons, qui est un affrontement à long terme. Je reconnais avec M. Bord qu'il s'agit d'un affrontement constant qui est appelé à durer. Vous savez qu'en Méditerranée, nous avons bien sûr une forte installation au Maroc, des forces américaines, et donc l'Algérie peut être, disons, une sorte de contrepoids avec en offrant ses ports aux porte-avions soviétiques, aux Russes, pardon, excusez-moi encore, je le fais dire. Il y a donc une sorte de, comment vous dire, de données permanentes géostratégiques, voyez-vous, c'est-à-dire que la Russie a toujours voulu, disons, comme on dit, atteindre les mers chaudes, et sa présence en Méditerranée est une présence, disons, est un projet ancien, qui bien sûr est renouvelé par les attaques aujourd'hui, ou les contraintes qui sont exercées contre l'État russe, par ce qu'a expliqué M. Bord, mais nous voyons, disons, avec, non pas inquiétude, mais nous voyons avec, une sorte de résignation. Cet affrontement entre justement les flottes aériennes et les flottes maritimes, disons, russes et américaines, ou de l'OTAN, le mot est américain, ce sont les Américains qui le dirigent, ceci n'est pas appelé à disparaître, c'est appelé au contraire à avoir une certaine durée, et par là même transformer la Méditerranée, bien sûr, en un champ d'affrontement. Et alors, la question qui se pose, question politique, est-ce au bénéfice, finis à long terme ou à moyen terme, des gens de la Méditerranée? Je crois malheureusement qu'il y a un bon côté de la présence russe qui a permis à l'État syrien de lutter contre le terrorisme, mais il faut dire que ceci se paie très cher, parce que l'État syrien et les autres États indépendants d'Orient se trouvent ainsi engagés, disons, dans une stratégie qui les dépasse. Je ne dis pas qu'il leur est indifférente, mais qui dépasse même les capacités ou les sphères, disons, de l'Orient. Et je crois que cet affrontement est un affrontement constant, voyez-vous. Je souligne souvent que depuis la différence avec les années 80, par exemple, c'est qu'il n'y a aucune négociation entre la Russie et les États-Unis pour la paix et le désarmement. C'est-à-dire que nous assistons là à une course aux armements qui naturellement entraînerait avec elle la fatalité que nous redoutons tous, voyez, c'est-à-dire évidemment un prochain conflit. Un conflit à long terme entre ces deux nations, je le dis ouvertement car ceci n'est pas, on n'ose pas le dire, hein, mais je crois qu'il faut le dire, un affrontement n'est pas exclu. Il ne faut pas, disons, se voiler la face. Il faut que les générations se préparent justement à une épreuve très difficile.
Monsieur Burke, venez en fait de nous avoir fourni tout à l'heure des explications techniques également sur ces bombardiers stratégiques nucléaires à longue portée de la Russie qui ont été en fait déployés à la base de Hemaimim. Monsieur Burke, la question qui se pose est de savoir quelle est la portée, si vous voulez, de la Syrie, de l'engagement militaire de la Russie dans ce pays, et dans l'occurrence, dans la base de Hemaimim, qui inquiète tellement l'OTAN, M. Burr?
C'est une base stratégique à plusieurs endroits pour faire... Pour faire simple, je vais le résumer en trois points, plutôt en trois axes. Il y a l'importance pour la Russie en elle-même dans le cadre de son projet, comme il a été indiqué précédemment, de toujours d'avoir accès aux mers chaudes. Mais cela nécessite le port de Sébastopol, cela nécessite un point d'ancrage en Méditerranée, et ce qui est le cas à l'heure d'aujourd'hui, mais ça nécessite également le port d'Odessa, qui est toujours aujourd'hui contrôlé par la junte de Kiev. Donc, c'est aussi un de ces éléments-là, et dans la guerre future, l'agression future, il y a toujours même l'Ukraine qui fait partie de ce calcul, même par rapport à la dimension syrienne. Ça peut paraître bizarre, mais lorsqu'on regarde les cartes et lorsqu'on connaît l'histoire, c'est une... quelque chose qui est persistant puisque c'est une nécessité géopolitique. Il y a un autre élément, deux autres éléments, c'est effectivement la réponse au terrorisme en Syrie, puisque la Russie a toujours dit, et Poutine l'a fait plusieurs fois des déclarations, je préfère combattre les terroristes là-bas que de voir les combattre ici, c'est-à-dire en Russie. Donc c'est aussi un intérêt russe, et en même temps de valider et de démontrer et de tenir tout simplement parole que la Russie est un allié, un partenaire fiable et viable, puisque il maintient et il respecte ses engagements qui ont été signés entre les pays. Et puis troisième élément, c'est bien évidemment de mettre un pied au Proche-Orient afin d'éviter que de l'Occident et des Américains et de venir un peu gratter les États-Unis dans la région. Et dans le cas précis, on parle bien évidemment entre autres d'Israël, mais on parle également du Yémen, mais on parle également de votre pays. Et en cela, aujourd'hui, cette présence russe, je dirais pas massive, mais bien ciblée et dans son... intervention aussi décisif et sans faiblir en Syrie dans la lutte contre le terrorisme, cela a permis dans la collaboration sécuritaire en Syrie de, on va dire, valider une sorte de faisceau de confiance et d'intérêt entre Moscou et Téhéran. Et ça, c'est un élément positif qu'il faut prendre en compte, non seulement dans le cadre du bloc eurasiatique, mais également dans la sphère du Proche-Orient, qui a une répercussion en Occident et de par le monde pour le simple fait que les États-Unis sont le protecteur d'Israël dans la région et que Israël est le porte-avions des États-Unis dans la région pour son impérialisme. Donc on a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre l'intérêt, bien évidemment, de cette base, de ce déploiement, de l'intérêt de ces bases autant maritimes, portuaires et aériennes pour la Russie. Et tout cela, bien évidemment, dans ce toujours le cadre global de la confrontation entre la Russie et les États-Unis. Et pour terminer... Comme la personne, votre intervenant précédent de Toulouse,
Monsieur Dortillier, je dirais qu'effectivement, il faut s'en préparer parce que c'est une confrontation qui ne peut prendre fin que lorsque l'un des deux belligérants aura gagné sur l'autre. Personnellement, je préfère et je crois malheureusement que ça se terminera, et je préfère que ça se termine dans les ruines de Washington. C'est pas grandiloquent ce que je dis, mais les États-Unis n'ont pas peur de la guerre. Il faut bien s'en rendre compte dans les écoles où ils préparent leurs officiers. Ils en parlent, puisque dans toute la politique américaine, les guerres ont toujours été bénéfiques. Merci. Pour elles. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'aspect nucléaire et on en arrive effectivement à une autre situation qui est dangereuse pour toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'une des stratégies américaines, c'est la stratégie du chaos, la stratégie des guerres par proxy et bien évidemment la manipulation du terrorisme. Et on revient finalement à notre argument premier. La Russie est présente en Syrie dans la lutte contre le terrorisme. Vous voyez, c'est un élément global qu'il faut prendre d'un point de vue international et mondial. Et c'est bien, on revient sur les bases. C'est l'Eurasie contre le bloc occidental, dont le pilier principal est l'impérialisme américain.
Monsieur Dortillier, dans le cadre en fait de cette logique de la confrontation entre la Russie et les États-Unis, que vous, Monsieur de Beur, évoquez, il y a eu surtout en fait cette réaction du côté de Moscou à ces récentes déclarations de Joe Biden, président américain. Moscou qui dit en fait avoir réservé en fait des messages désagréables à Washington pour les jours à venir.
Oui, en effet, c'est un souci pour Washington que de cette attitude, cette fermeté de l'attitude russe, d'autant que celle-ci repose sur une continuité, bien sûr, politique que dont les Américains ne sont pas capables, et même l'Europe. Et cela, bien sûr, amènera fatalement une reconsidération, non pas la fin de l'impérialisme américain, mais une reconsidération de sa tactique, disons. À savoir, est-ce qu'il sera prêt à négocier certains points, est-ce qu'il sera prêt, par exemple, à diminuer l'importance du terrorisme, qui naturellement, comme on le sait, qui est de source américaine, qui est de source réellement occidentale. Est-ce que vraiment il y aura une conséquence sur la vie des peuples de l'Orient, sur la vie je le crois. Mais ce qui me semble vrai, je crois que M. Borr me l'a confirmé dans son sentiment, c'est que cet affrontement va être constant. Cet affrontement est une chose qui est... Parce que les Américains, on peut dire des choses simples, les Russes sont ce qu'ils sont, ils ont connu la guerre chez eux, et les Européens l'ont connu aussi, ils ont connu les bombardements, etc., anglo-américains. L'Allemagne a été ravagée par ces bombardements. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Ça, c'est une donnée très importante. Je demande aux jeunes générations de tenir compte de cela, car les États-Unis, mis à part la guerre de sécession, disons, n'ont pas connu le côté affreux de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, sauf dans les morts, bien sûr, qu'ils ont eues. Mais ils n'ont pas connu ce bouleversement, cet incendie des pays que nous avons connu.
Merci.
Et je crois que c'est ça qui est le danger, justement, de la politique américaine et la nécessité, disons, d'avoir devant eux un adversaire, disons, qui limite, disons, qui discipline, disons, leurs appétits impérialistes.
Merci.
Je crois que c'est le rôle de la Russie, c'est un destin, disons, et nous l'acceptons, nous-mêmes Européens, je crois que vous-même, l'Iran et d'autres pays l'accepteront. Nous devons lutter avec ce que la nature nous donne, voyez-vous, contre, bien sûr, il y a toujours eu une sorte de rivalité, vous savez, dans l'Iran, par exemple, entre la Russie et l'Angleterre,
pour la
domination de l'Iran. Mais là, nous en sommes à un autre stade, c'est un stade plus important, ces anciennes inimitiés peuvent devenir, disons, des alliances, et je le crois, des alliances durables.
Merci beaucoup, M. Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Fabrice Beur, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui était en ligne avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Lors du récent conflit entre le régime israélien et les Palestiniens, le tir des milliers de roquettes et de missiles par la résistance a infligé d'immenses dégâts militaires et économiques au régime de Tel Aviv, d'autant plus que la résistance a choisi avec une grande précision des cibles économiques les plus importantes d'Israël. Comment évaluer le bilan des dommages économiques d'Israël ? Écoutons à ce sujet l'analyse d'Imadeddin Amrouni, expert des questions politiques.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'agression sioniste contre le territoire palestinien et contre Al-Quds et Al-Aqsa et la résistance victorieuse du peuple palestinien et de sa résistance à Gaza a montré que les Palestiniens aujourd'hui sont capables non pas simplement à résister, mais à donner des coups importants contre l'entité sioniste de point de vue sécuritaire, militaire, politique, mais surtout économique et financier. Les tirs de Gaza, cette dernière fois, depuis quelques temps, ces tirs, il y a quelques semaines, contre le territoire de la Palestine occupée, elles étaient des tirs bien définis, c'est-à-dire que la résistance a bien eu une stratégie de frappe pour mettre à genoux, si vous voulez, l'économie israélienne, dans le sens que 11 jours après cette agression sioniste contre Gaza, la résistance a mené des attaques bien ciblées contre des ports, contre des installations économiques, contre l'infrastructure de l'ennemi, que ce soit les aéroports, les autoroutes. Et ça a montré qu'au niveau, niveau technique aussi, la résistance a bien avancé et que cette résistance palestinienne n'était pas seule dans cette bataille. Ce qui fait que la perte économique est énorme, que ce soit la perte immédiate, ça se chiffre en quelques millions de dollars. La perte sur le moyen et le long terme, ça se chiffre par des milliards. Dans le sens qu'on a vu que l'arrêt des aéroports, l'arrêt aussi sur certains ports stratégiques comme Eilat, comme Esdoud, comme bien d'autres. Et donc la portée économique de cette guerre, la portée stratégique, si vous voulez, au niveau technique des frappes de la résistance, a montré que la résistance palestinienne a réussi à donner des coups, mais des coups bien ciblés, pas simplement politiques, militaires, mais surtout économiques. Et ça, c'est nouveau.
La Chine s'oppose à l'installation de bases américaines en Asie centrale. Dix mois après la première réunion des ministres des Affaires étrangères de la Chine et des cinq États d'Asie centrale, Pékin a organisé une deuxième session le 11 mai lors d'une réunion à Xi'an, en Chine, organisée par le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Le lieu est symbolique. L'ancienne ville de Xi'an était autrefois le terminus Akko de la route de la soie. Et peut-être aussi le moment choisi puisque c'est également le 25e anniversaire du processus des 5 de Shanghai, au cours duquel donc la Chine a commencé discrètement mais sûrement à développer ses relations économiques, militaires et diplomatiques avec l'Asie centrale et à se présenter comme un partenaire viable. La réunion de Xi'an est un événement décisif car elle crée une garantie institutionnelle pour le réseau naissant des C+C5. Les participants ont convenu d'un protocole d'accord visant à établir un dispositif de coopération régionale, à promouvoir la construction de haute qualité de la nouvelle route de la soie et à créer 3 centres de recherche pour mener à bien la coopération. Un voyage de 1000 miles chinois commence par un seul pas, dit un vieux proverbe chinois. Tout comme le processus des 5 de Shanghai s'est transformé en organisation de coopération de Shanghai, le C+C5 semble lui aussi destiné à atteindre des sommets. Les 5 de Shanghai, composés de la Chine, du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, de la Russie et du Tadjikistan, ont également connu des débuts modestes en 1996 à l'issue d'une série de pourparlers sur les démarcations et la démilitarisation des frontières que les 4 anciennes républiques soviétiques ont menées avec la Chine. L'institutionnalisation du C+C5 marque également un tournant dans la sécurité régionale. Alors que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan est en cours et que l'on spécule sur le fait que le Pentagone envisage des installations de bases dans les pays d'Asie centrale. Il est intéressant de noter que les ombres du grand jeu sont également apparues. La réunion de Xi'an a lieu 18 jours après une réunion similaire au format C5+1 à laquelle a participé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en mode virtuel bien entendu. On ignore si c'est Blinken qui a tiré son épingle du jeu ou si c'est l'inverse. Jeudi, un éditorial du China Daily, le journal gouvernemental, a souligné la grande importance accordée par Pékin à l'initiative diplomatique C+C5. Il notait que le dispositif C+C5 esquisse un plan d'action qui fournit une garantie institutionnelle plus forte pour leur coopération. L'éditorial poursuit, transformant leur volonté partagée de poursuivre un développement commun par des projets en actions concrètes, ils ont convenu d'établir un dispositif de coopération régionale C+C5, de promouvoir la construction de haute qualité de la nouvelle route de la soie et de créer 3 centres de recherche pour mener à bien la coopération dans les domaines de l'agriculture moderne, du patrimoine archéologique et culturel et de la médecine traditionnelle. Plus important encore, l'éditorial indique que la réunion du C+C5 a renforcé la confiance mutuelle stratégique et il a été convenu de faire des efforts concertés pour construire une communauté Chine-Asie centrale avec un avenir commun et de travailler ensemble pour promouvoir la sécurité et la stabilité régionale et bien sûr sauvegarder la justice internationale. Elle a mis en avant une déclaration commune publiée à l'issue des discussions concernant leurs efforts conjoints pour promouvoir la réconciliation pacifique en Afghanistan, démontrant que les 6 pays joueront un rôle plus important dans leur ensemble. Le fait qu'ils aient convenu d'établir un calendrier de réunions régulières des ministres des Affaires étrangères du C+C5 indique qu'ils sont bien conscients de l'importance de l'unité et de la coordination régionale. Les motivations de Pékin semblent être doubles. Envoyer un signal clair qu'ils s'opposent ensemble à toute ingérence dans leurs affaires intérieures et à toute action menaçant leurs intérêts fondamentaux en matière de développement, et bien sûr affirmer avec force leur affirmation commune selon laquelle l'Asie centrale n'est ni une scène où une puissance peut organiser une révolution de couleur, ni un lieu où une puissance quelconque peut tenter de semer la discorde. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a souligné qu'il est nécessaire que les pays voisins de l'Afghanistan, y compris l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, coordonnent leur prise de position en temps utile, parlent d'une seule voix et soutiennent pleinement le processus de paix intérieure afghan afin de surmonter les difficultés et d'aller de l'avant. De même, un commentaire du Global Times a développé les préoccupations de Pékin, qui craint que le retrait des États-Unis ne laisse des situations chaotiques et que la région ne devienne un terrain propice aux trois mots « terrorisme, séparatisme et extrémisme ». Le commentaire cite des avis d'experts selon lesquels, outre la Russie et la Chine, les pays d'Asie centrale seront également réticents à accueillir un déploiement militaire américain sur leur sol, car l'intensification des activités politiques et de renseignement des États-Unis et leur implication dans les partis d'opposition locaux, les ONG et les groupes de médias ne feraient que provoquer une révolution colorée. En général, les troupes américaines ne sont pas très bien accueillies dans la région. Pékin affirme que son approche et celle de la Russie sont complémentaires. La Russie se soucie davantage de la sécurité et la Chine de la capacité économique. Mais pourquoi l'OCS ne pourrait-elle pas servir cet objectif ? L'une des raisons pourrait être que l'OCS n'est plus la même depuis que l'Inde et le Pakistan en sont devenus membres. On peut imaginer que la Russie, qui se concentre déjà sur le prochain sommet avec le président des États-Unis, craint de jouer avec les nerfs des Américains. C'est donc probablement à Pékin qu'il incombe de faire le gros du travail. Un article exclusif paru aujourd'hui dans le People's Daily, organe du Parti communiste chinois, s'intitule « Les États-Unis ne peuvent pas se dérober sur les questions afghanes ».